sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est un privilège que vous ne pouvez écouter que sur Canal Académie, la retransmission dans les conditions du direct de l'intégralité de la cérémonie de remise des Grands Prix de l'Institut de France. C'est chaque année, au début du mois de juin, et en 2010, elle s'est déroulée sous la coupole le mercredi 9 juin. Vous allez entendre maintenant les discours de présentation des lauréats des Grands Prix, des fondations abritées par l'Institut de France. Vous entendrez également le son des courtes vidéos qui, sur place, présentent les lauréats dans leur milieu de travail respectif. Au son des tambours de la garde républicaine, entrez maintenant avec les académiciens sous la coupole.
La séance est ouverte. Messieurs les ministres conseillers, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les fondateurs, monsieur le chancelier, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs, pour la 6e année consécutive, nous réunissons aujourd'hui sous cette coupole pour remettre les grands prix des fondations de l'Institut de France. Avec cette 6e édition, nous entrons aujourd'hui dans la deuxième partie d'un cycle décennal, inscrivant cet événement dans la lignée des rendez-vous académiques gravés dans le marbre de nos rendez-vous annuels. Chaque année, cette rencontre est pour nous tous l'occasion de mesurer pleinement le travail exceptionnel réalisé par les fondateurs au sein de notre maison. Les membres de l'Institut ont d'ailleurs cette année encore apporté aux fondations, à travers les jurys, comités de sélection, mais aussi conseils d'administration, leur savoir-faire et leur expertise au service de la mission première des fondations. Distribuer bourses, subventions ou grands prix, faisant ressortir pour cela les dossiers les meilleurs, les travaux les plus méritants, les découvertes les plus innovantes. Pour toutes ces raisons, notamment, je suis heureux et fier de présider cette séance. Pour présenter les lauréats de nos grands prix, interviendront au cours de cette séance M. Alain-Jacques Valeron, M. Jean Salençon, Mme Hélène Carrière-Dancos, M. Alain Carpentier, M. Yves Agide et M. Jean-François Bach. Avant de leur laisser la parole et de rappeler à travers quelques exemples les projets soutenus cette année par les fondations de l'Institut, je veux, sans plus tarder, laisser la parole au chancelier Gabriel De Breuil pour son discours sur le choix des mécènes.
Merci, Monsieur le Président. Cette réunion, l'occasion d'honorer les acteurs d'une transformation qui vient heureusement compléter les missions traditionnelles des académies et de l'Institut. Je veux parler des fondateurs, des lauréats, et des académiciens qui apportent leur concours dans les conseils et les jurys. Nous assistons depuis 20 ans à un retour de la philanthropie, ce principe social qui s'est épanoui au siècle des Lumières, qui a solidement pris racine aux États-Unis d'Amérique et qui nous revient d'outre-Atlantique avec une force renouvelée. En même temps, l'activité de mécène se professionnalise peu à peu. Dans sa forme la plus achevée, elle devient un métier. Dès lors, les choix des mécènes qui sont à la source de cette transformation ne se trouvent-ils pas modifiés? Vers quels objectifs et selon quelles modalités sont-ils désormais orientés? Certes, l'acte simple de mécène existe encore dans sa pureté originale. Je veux vous en donner un exemple. Haverford College, près de Philadelphie, découvre, grâce à un chercheur hollandais, dans un fonds d'archives légué par un ancien étudiant du Collège américain, une importante lettre de Descartes de 1641 à son ami et conseiller le père Mersenne, lettre qui fut subtilisée au XIXe siècle des archives de l'Institut de France par Libri. La réaction spontanée du Collège et de son président et de restituer ce précieux document à son légitime propriétaire. Saluons la noblesse du geste. Il témoigne d'un désintéressement digne de la République des Lettres qui a existé au XVIIe siècle, qui elle aussi a essaimé aux États-Unis et qui reste vivante dans la communauté des savants. Il témoigne aussi des valeurs morales qui président à l'enseignement universitaire de Haverford College. Ce trait est peut-être le modèle de la sainteté dans la philanthropie. Et je suis heureux d'y avoir rendu hommage hier, en présence de l'auteur de ce geste, le professeur Stephen Emerson. Mais abrités à l'Institut, il existe bien d'autres formes de mécénat. Les unes traditionnelles récompensent une œuvre, un talent, une carrière, un projet. Ces formes-là sont consubstantielles à la mission des académies. Comme leurs prédécesseurs, les mécènes y sacrifient avec une immense générosité. Les montants des plus grands prix décernés aujourd'hui en témoignent. Mais ils y ajoutent d'autres choix qui reflètent bien les préoccupations de notre époque. Ils sont extrêmement variés, traduisant les intentions qui peuvent être multiples de chacun des donateurs. Je tenterai d'en présenter en quelques instants les tendances récentes en disant que les choix des mécènes paraissent aujourd'hui plus efficaces, plus solidaires et plus généraux. Le mot « efficacité » a-t-il sa place dans le vocabulaire du mécénat ? On l'a parfois nié. Le geste du don pouvait se suffire à lui-même. On est peut-être plus exigeant aujourd'hui. Il s'agit moins d'actes charitables, de bienfaisance, et davantage d'engagement personnel, d'intérêt personnel, de motivation. L'implication du mécène dans l'action qu'il veut encourager, l'attention qu'il porte aux résultats, sont les ressorts qui l'animent. Le mécène est un acteur et se veut efficace. Ainsi, choisira-t-il de découvrir plutôt que de couronner, d'encourager des tentatives autant que des réussites, de combler les lacunes d'un régime social plutôt que de venir simplement renforcer des politiques déjà engagées. En veut-on des exemples tirés des objectifs choisis par les mécènes partenaires de l'Institut de France ? L'insertion des enfants autistes dans le système scolaire. Le coup d'épaule donné aux enfants démunis pour les aider à poursuivre leurs études. Les contraintes, parfois terribles, qui pèsent sur les familles des handicapés majeurs. L'accueil des plus déshérités, sans domicile, en les recevant avec leurs chiens ou en leur proposant une consigne pour déposer leurs affaires pendant la journée. Un GPS pour faciliter la circulation en ville des personnes à mobilité réduite. En Afrique, relevons parmi d'innombrables interventions humanitaires l'instruction des filles ou la gestion de l'eau à l'échelon du village. Les choix des mécènes possèdent aujourd'hui peut-être un autre caractère. Selon l'ancienne tradition, ces choix restaient solitaires et même discrétionnaires. Ils sont aujourd'hui plus solidaires, plus insérés dans un contexte collectif. Le mécène souhaite s'entourer. Sa démarche est souvent une démarche de couple ou familiale pour transmettre des valeurs reçues aux descendants le plus souvent, mais aussi à un entourage associatif ou aux bénéficiaires eux-mêmes. Ainsi, des élèves des grandes écoles se groupent-ils pour devenir les tuteurs des membres moins favorisés des promotions qui les suivent. Le mécénat financier se double d'un transfert de compétences, d'un accompagnement de conseils. Des formes plus évoluées de mécénat aboutiront à un soutien mutuel et même, dans certains cas, à un retour du don, ce qui est une preuve incontestable de sa réussite. L'entreprise, pour sa part, accomplit son projet en associant à sa démarche fondatrice le concours bénévole de ses collaborateurs, sous forme de missions humanitaires, de prospection, de formation ou de tutorat, pour faire partager un objectif ou en accroître l'effet. Ce peut être aussi le cas d'une personnalité qui veut se consacrer à un objectif déterminé et cherche à bénéficier autour de lui d'une mobilisation qui sera locale dans le cas de développement d'une région ou de l'animation d'un site, ou professionnelle autour d'une recherche ou d'une discipline médicale, par exemple. Dans tous les cas, partage, pérennité et effets multiplicateurs se conjuguent pour donner plus d'ampleur au choix du mécène. Nous constatons enfin, et c'est peut-être la tendance la plus récente, que les choix des mécènes se portent vers des objectifs plus ambitieux, de portée plus générale. Des fondateurs entendent se placer sous l'égide de l'Institut de France pour réfléchir ensemble. Ce faisant, ils prennent un peu de distance à l'égard de leur propre structure. Ils se rapprochent de la nôtre, dont la raison d'être se trouve précisément dans la réflexion sereine et indépendante, et ils entrent en résonance avec les travaux menés ici même. Les thèmes choisis pour les entretiens illustrent leur ambition. Jugez plutôt. La connaissance de la grande pauvreté, les conséquences de l'exclusion, l'accès au logement comme remède à bien des maux de la société, la mixité sociale, le lien social, une conception rénovée et plus responsable de l'économie de marché. Mais ce n'est pas tout. Dans cet élargissement de l'angle de vue du mécène, prend place désormais une préoccupation neuve, ambitieuse, que le monde de la finance observe avec curiosité et intérêt. L'entrepreneuriat social, ou solidaire, ou responsable. L'Institut de France, de par sa tradition et ses vocations actuelles, ne pouvait rester à l'écart de ce mouvement. Les choix de certains mécènes nous y ont conduits. De quoi s'agit-il ? Bien entendu, les procédés classiques de mécénat trouvent application en sélectionnant et encourageant des expériences louables lorsqu'elles sont menées dans un but non lucratif. Mais la démarche peut aller plus loin s'il s'agit d'encourager des formes d'exploitation à but lucratif ou des activités professionnelles. Encourager le microcrédit, aider à la création de petites entreprises, signaler, appuyer les projets des entrepreneurs solidaires, monter à cet effet une ingénierie financière souvent sophistiquée qui permette une conjugaison d'actions de mécénat par les ressources des fondations et de soutien financier par les fonds de dotation, par exemple. Telles sont quelques-unes des voies explorées par cette nouvelle discipline de l'entrepreneuriat social, qui trouve ses racines dans des créations déjà anciennes, les mondes de piété, la mutualité ou les banques populaires, par exemple. L'Institut de France s'engage dans cette voie, mais ne s'y engagera que dans le respect de ses modes d'intervention traditionnels. C'est d'ailleurs dans ces conditions que son concours est recherché. Et nous avons confiance que ce concours peut apporter, dans la conception et la mise en œuvre de formules nouvelles, une garantie et, lorsque l'opportunité se présente, une consécration. Le mécénat apporte aujourd'hui un soutien à des activités à but lucratif et la forme de soutien ne se limite pas au financement, mais prend toute sa dimension dans l'accompagnement. Il s'agit généralement d'un appui à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder au financement classique. Cette pratique se développe dans les pays en voie de développement, où il permet de concrétiser des initiatives en favorisant l'activité, la création de richesses, mais elle existe aussi dans les pays développés. L'aide apportée voit son efficacité décuplée lorsqu'elle intervient par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées d'insertion qui œuvrent à deux niveaux, d'un côté en accordant des subventions et de l'autre en identifiant des projets économiques auxquels des capitaux risqueurs pourront venir en aide. De nouvelles structures juridiques sont nécessaires pour financer des projets de ce type, dont la gouvernance requiert de nouvelles compétences, notamment pour veiller à la bonne affectation des fonds. En présence de ces tentatives, à la charnière entre l'activité commerciale et le concours des intéressés, certains ont avancé l'idée d'organismes à lucrativité limitée. Si l'on observe le même phénomène, du point de vue du mécénat, qui est le nôtre, je suggérerais l'idée d'un secteur d'intervention à générosité enrichie. Intervention toujours généreuse, certes, mais enrichie par le souci de l'utilité sociale et de l'efficacité. Si le mécénat est un métier, le mécène devient un expert à la poursuite d'objectifs louables, mesurables, et que, sous cette coupole, nous pouvons qualifier d'académique sans rien renier de nos traditions.
Nous vous remercions, Monsieur le Chancelier, pour ces propos qui nous ont convaincus que les choix de mécènes sont toujours guidés par la foi en l'homme et en l'avenir. L'Institut est fier de la confiance des donateurs. Vous venez d'en faire la démonstration, la philanthropie, plus vivante que jamais, redéfinit ses objectifs et ses modes opératoires. Nous tous, académiciens, sommes heureux d'être les compagnons de cette quête et de ces missions généreuses. C'est au titre de président de l'Institut que m'échoit l'honneur de présenter les fondations abritées par notre institution. J'en suis d'autant plus heureux que, pour l'architecte que je suis, le terme a un sens qui n'est pas sans rapport avec nos propos, car c'est bien le soubassement d'une société nouvelle, plus juste et plus solidaire, que construisent ensemble celles et ceux auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Le mécénat en faveur des arts, des lettres et le plus généralement des œuvres de l'esprit trouve à l'Institut, dont la vocation est de stimuler toutes les formes d'expression, des plus traditionnelles aux plus contemporaines, un soutien naturel. Pour la première fois cette année, les fondations Gisèle Tissier, Grandpierre et Kenza ont récompensé leurs lauréats. Le prix de la Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre, destiné à promouvoir une activité naturelle ou un artiste qui, dans le domaine musical, travaille dans l'esprit qui animait les grandes harpistes Gisèle Tissier-Grandpierre et son mari Paul Tissier, a été remis cette année à Agnès Clément, jeune harpiste, élève du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Créée en juin 2009, la Fondation Kenza est la première en France à soutenir spécifiquement les études à l'étranger d'étudiants en beaux-arts ou en histoire de l'art. Deux bourses ont été attribuées cette année sur critères d'excellence. L'une à Anne-Claire Barriga, auteure d'un projet en art vidéo, qui poursuivra son cursus à Prague, et l'autre, Solveig Placier, étudiante en histoire de l'art médiéval, qui s'inscrira à l'Université de Heidelberg. La Fondation Art Dialogue finance des expositions dans la rue et dans les lieux publics pour favoriser le contact entre l'art et la population. Elle a soutenu en 2009 Thomas Ries, dont la sculpture La Grande Tétrachytis a été installée dans le jardin au Centre culturel Marguerite d'Ambreville de Chantilly. Engagée en faveur du parc naturel régional du Luberon, la Fondation Thierry et Annick Desmarais soutient depuis 2009 un festival de chant et de musique baroque, les musicales du Luberon. Elle a d'ailleurs contribué à la restauration de l'église Saint-Luc de Ménerbe au lieu de ce festival. Les arts nourrissent l'esprit et nous incitent à être plus sensibles, plus sensés, plus généreux. C'est ainsi que Sylvie Pomaret, à l'origine de la Fondation Écart Pomaret, évoque son engagement. La Fondation soutient des artistes de toutes disciplines et les accompagne dans leur processus de création et dans leur démarche de production. Cette année, l'école d'art burlesque, le Samovar, a pour exemple bénéficié d'une bourse. La Fondation Janelli et Jean-René Fourtou encouragent la rencontre entre les professionnels de l'art contemporain et apporte son soutien financier aux artistes en subventionnant le séjour du cirque Djama Buren dans le cadre du festival Awantar au Maroc. Elle favorise les échanges artistiques et contribue au développement d'un tourisme culturel et rural. La Fondation Cora agit pour la mise en valeur du patrimoine littéraire ou artistique par des aides à la publication, à la conservation et à la restauration. Elle a financé cette année, entre tant d'autres, la publication des actes d'un colloque organisé en janvier 2010 sur le thème « La France et les Français en Russie, 1789-1917 ». Quelle source pour de nouvelles approches ? La Fondation Laforlan soutient depuis 2008 le Festival de musique baroque de Bougival, sur ses bords de Seine, où se trouve la maison qu'habitait Georges Bizet lorsqu'il composa Carmen. La manifestation a, cette année encore, bénéficié de la présence de Teresa Berganza, qui en a fait l'ouverture avec une classe de maîtres consacré à Don Giovanni de Mozart. Grâce à la générosité de la Fondation Lefort-Beaumont, deux portraits exécutés par Nelly Jacquemart-André, qui confia l'abbaye royale de Chalice à la garde de l'Institut, viennent d'enrichir les collections qu'elle y avait elle-même installées. Fondée en 2006 par Roland Michel en hommage à son épouse, historienne de l'art, la Fondation Marianne et Roland Michel a décerné en 2009 son prix à Thomas Max Solé de l'Université de Leeds pour son ouvrage « Human Figures Method, Studies, Sculpture and Sculptor in the Academy Royale de Peinture et de Sculpture ». Citons les fondations Colette Kaya, Empreinte, Henri Gall, Jean, Irène et Barbara Kirchner, IECA, Jean Laplanche et Aurélie Nemours, engagés en faveur de la promotion des arts et des lettres, ainsi que les prix Jean-Édouard Gobi et Georges Coulon. Le mécénat scientifique soutient des avancées remarquables pour l'homme. Son développement à l'Institut traduit bien la foi en l'avenir, l'espoir placé dans la recherche et la confiance dans l'expertise de notre institution. Dédiée à la recherche fondamentale, la Fondation Alliance attribue un prestigieux prix annuel à des travaux destinés à accroître l'espérance de vie. Le lauréat 2009 est le professeur Bertrand Ouvert pour ses études sur l'épidémiologie du VIH en Afrique. Ses recherches sur la circoncision comme moyen prophylactique du virus du sida, ont fait naître l'espoir de voir enfin régresser la plus grande épidémie de notre temps. La Fondation Cottrel se penche cette année sur l'apport de la génétique dans la recherche de l'étiologie de la scoliose idiopathique et rassemblant tous les chercheurs généticiens qu'elle soutient sur un projet commun. Le prix de la Fondation Dalloz récompense chaque année des travaux de recherche dans le domaine de l'ophtalmologie. Le docteur Éric Gabizon a été distingué pour son étude sur les métalloprotéases matricielles et leur rôle dans la cicatrisation de la peau et de la cornée, sur l'anglogénèse cornéenne et tumorale et l'invasion tumorale au niveau de la cornée. Le prix Daniel Hermann, décerné par la Fondation Recherche Cardiovasculaire, concerne le développement de la recherche médicale et biologique dans ce domaine. Le thème retenu en 2009 était « cœur, vaisseau, hémostase ». Et ce sont les travaux sur la thrombose et l'hémostase de Peter Lentin, directeur de recherche à l'INSERM, qui ont été couronnés. Deux prix de l'innovation textile sont décernés par la Fondation Théophile Legrand. Le premier prix a été attribué à Christelle Réti, doctorante en chimie, qui a créé une nouvelle fibre textile inifugée, isolante et antibactériologique. Interviennent également dans le domaine de la recherche scientifique et médicale les fondations Cottrel, Jean et Irène Barbara Kirchner, Unité Guéra, Paul Baudouin, Lambrecht Mayano et Éric Vincenot. Pour répondre à la diversité des besoins dans le domaine humanitaire, les fondations de l'Institut ont multiplié les actions apportant par leur engagement des réponses tant sur le plan de la doctrine que de l'urgence. La Fondation Blanc-Ménil s'est associée cette année à la création d'un foyer destiné aux enfants qui travaillaient dans la décharge de Phnom Penh avant son déplacement au Cambodge, toujours. Elle a pris en charge l'éducation de 80 jeunes filles au centre scolaire de Sisofon. Elle a également apporté son aide pour la construction de deux foyers de jeunes filles en Tanzanie. En 2009, la Fondation Pierre Dumas a récompensé une équipe de 4 jeunes volontaires savoyards de l'élan chambérien et unicité pour leur action en faveur d'une pratique sportive adaptée aux personnes handicapées et pour le programme mixte handivalide. Elle a également œuvré pour permettre à un enfant indigent et atteint d'une maladie du cœur d'accéder à des soins chirurgicaux. Nous nous réjouissons que la petite Martine Nadbou, originaire du Congo, ait ainsi pu être opérée à l'hôpital Necker à Paris. Aider à se connaître pour conjurer la violence et la détresse, C'est l'objet de la Fondation Feuillade pour la solidarité de proximité. Elle a épaulé en 2009 l'association Espace 19 qui anime des ateliers dans le 19e arrondissement de Paris pour la réalisation d'un calendrier interculturel et interreligieux. Citons également l'action de la Fondation Henri Lachmann en faveur de l'insertion des jeunes de milieux défavorisés. En 2009, elle a offert son soutien à l'association Sport dans la ville pour la construction à Lyon de Campus Pro, un vaste espace dévolu à la formation et à l'insertion des jeunes issus des milieux sensibles, particulièrement lorsqu'ils ont un projet de création d'entreprise. Mettre les technologies de l'information au service de l'homme est la vocation de la Fondation Steria. En 2010, elle a décerné sa bourse à des étudiants de l'École supérieure d'informatique électronique et automatique pour le projet Praticart, consistant à calculer la praticabilité des itinéraires et à mettre les données à la disposition des personnes à mobilité réduite. Qu'il me soit permis, au moment où nous évoquons celles et ceux qui se sont donnés pour mission d'aider les plus démunis, de rendre hommage à Étienne Rapp, fondateur d'Équilibre, qui nous a quittés le 6 août 2009. Nous saluons son engagement, dont la discrétion n'avait d'égal que l'altruisme. Depuis 2008, sa fondation œuvre en faveur des enfants et des adolescents défavorisés. À travers le monde, Équilibre soutient en 2010 la construction d'une nouvelle salle dans un village accueillant des personnes en difficulté, la Fazenda do Natal au Brésil. Elle sera dévolue à la formation des adultes et à la projection de films éducatifs pour les enfants. Citons aussi les fondations DES, DEEC, DIRTS, La Fondation, ONAC, FITRUS, pour leur aide aux enfants martyrisés, handicapés et à ceux que l'extrême misère cantonne aux marges de la société. L'idée d'un développement pouvant à la fois réduire les inégalités et limiter la pression sur l'environnement, a fait son chemin. L'avenir de la planète dépend en partie de notre capacité à traiter la question cruciale de l'énergie. C'est pourquoi la Fondation européenne pour les énergies de demain, créée par EDF, s'attache à préparer les étudiants à relever les défis énergétiques. Elle a lancé en 2009 une chaire à HEC intitulé « Nouveau business model dans l'énergie » qui porte essentiellement sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Architecte de vaisseaux et d'habitations pour la mer et l'espace, Jacques Rougerie a créé en 2009 la fondation Jacques Rougerie, Génération Espace Mer. Convaincue qu'il faut donner aux jeunes les moyens d'agir, elle contribue au développement des projets liés au monde marin et respectueux des préceptes du développement durable. Enjeu environnemental majeur du XXIe siècle, la distribution d'eau dans les pays en voie de développement est l'objet du concours de la Fondation Suez Environnement Eau pour tous. Le Grand Prix a été décerné à l'École polytechnique de Yaoundé pour un projet de distribution d'eau potable porté par le professeur Emmanuel Nickam. Et le prix spécial a été remis à l'organisme canadien COAST, qui propose ses conseils dans 58 pays. On ne peut clore cette présentation des actions menées en faveur de l'environnement sans évoquer Yves Rocher. Récemment disparu, véritable précurseur, il avait placé la nature au cœur de ses produits et de son engagement. La Fondation Yves Rocher, présente dans plus de 50 pays, remet chaque année le trophée Terre de Femmes, qui récompense des actions menées par des femmes en faveur de la nature et pour le bien des autres. Doivent être également citées les fondations Avenir Finance, Édouard Bonnefous, Botio du Lac, Daniel Jouvent, Jacques et Françoise Lescouzère, pour leur contribution à la sauvegarde de la planète. Le droit à l'éducation est un droit fondamental de l'homme, dont on sont encore privés des millions d'enfants et d'adultes. L'Institut, abrégé du monde savant, s'honore d'abriter fondations couvrant pour faire valoir ce droit indispensable à l'exercice de tous les autres. Après avoir participé à la construction d'un pensionnat à Madagascar, la Fondation Luciole s'est engagée pour permettre aux populations de brousse très isolées d'accéder à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'énergie. Dans cette perspective de développement durable, une école primaire de 2 classes sera bientôt construite dans un village de Tsijong. La Fondation, un métier vocation, apporte son soutien à des élèves méritants, mais trop modestes pour envisager de poursuivre des études. 5 élèves infirmières, et n'est-ce pas là une profession qui suppose bien une vocation, ont ainsi été gratifiés cette année d'une aide financière. Il convient de mentionner également le soutien des fondations Barthélémy, Marie-Rose et Michel Bézian, Guy Saïs, Sophie Germain, à ceux qui, faute de moyens, ne pourraient recevoir la formation à laquelle ils aspirent. L'Institut de France, Parlement des savants, est le lieu par excellence de la réflexion collective. Et nous sommes heureux de saluer la création de fondations dont la vocation est précisément une réflexion économique et sociétale plurielle. Que ce soit croissance responsable, habitat et humanisme, la Fondation de recherche Caritas, ou plus récemment la Fondation pour le lien social Croix-Rouge française, ces fondations ont en commun de mener une réflexion sur des moyens de vaincre la pauvreté en engageant la participation des entreprises, syndicats, organisations non gouvernementales, ainsi que celles d'universitaires et d'intellectuels. Elles encouragent les projets pouvant déboucher sur les nouvelles solidarités à une échelle adaptée aux besoins actuels. Ainsi, l'engagement philanthropique est-il une démarche singulière, solidaire et solitaire, pour rejoindre vos propres termes, monsieur le chancelier, qui ne sont pas sans évoquer l'interrogation sur laquelle Albert Camus avait magnifiquement choisi de clore Jonas ou l'artiste au travail. Nous allons procéder à la remise des prix. Ce sera le prix Mérieux. Et pour commencer, découvrons le lauréat prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Je donne la parole à monsieur Alain-Jacques Valeron de l'Académie des sciences pour présenter les travaux de monsieur Jean-William.
Le prix Christophe Mérieux est destiné à aider des équipes de recherche travaillant sur les maladies infectieuses dans des pays en développement. Cette année, j'ai le très grand honneur de présenter le lauréat du prix 2010, Jean-William Pape. Jean-William Pape est né à Port-au-Prince, à Haïti. Après une formation universitaire à New York, acquise à Columbia et Cornell University, il choisit le domaine des maladies infectieuses. Très vite, il s'y distingue et il est recruté dans le corps enseignant de l'université de Cornell. Voici donc ce brillant jeune médecin universitaire dans une des universités prestigieuses des États-Unis, avec une voie toute tracée pour y accomplir des recherches d'excellence avec tous les moyens et facilités nécessaires. Mais il décide de retourner à Haïti. Il y crée une structure de recherche et d'enseignement toujours en activité, maintenant avec plus de 400 collaborateurs, que ce prix va aider à développer. Son retour se passe à la fin des années 70, avant le sida. À cette époque, la diarrhée infantile était une cause de mortalité très importante en Haïti. Elle l'est toujours dans le monde, puisque chaque année, presque 2 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent encore de diarrhée. Jean Pape identifie alors la cause très simple de la mort de la plupart de ces enfants. Leurs parents sont pauvres. Ils doivent trop attendre, longtemps, avant de réunir l'argent nécessaire à acheter les médicaments qui sont prescrits à leurs enfants. Jean Pape révolutionne alors le traitement grâce à un sérum oral de très faible coût qu'il commença par composer lui-même. Ce sérum oral permet de réhydrater très rapidement l'enfant. Les taux de mortalité hospitalière pour diarrhée, qui étaient de 44%, chutent à moins de 1%. Les mathématiciens parlent d'élégance lorsqu'on trouve une solution techniquement simple à un problème compliqué. Il peut en être de même en médecine, comme nous le montre l'exemple de Jean Pape. Peu de temps après, en 1981, le sida est découvert. L'œuvre de Jean Pape dans ce domaine est immense, et si Haïti est un des rares pays en développement où maintenant l'épidémie régresse, il n'y a à coup sûr pas étranger. Parmi les innombrables sujets qu'il a traités, j'extrairai 2 exemples. Haïti, au début, fut présenté comme un épicentre de la pandémie de sida dont l'origine était énigmatique. Jean Pape, par l'analyse systématique d'échantillons bien choisis, a montré que ce n'était pas le cas. Sa démonstration n'eut pas seulement l'intérêt scientifique d'éclairer l'origine de la pandémie, elle eut l'intérêt sociétal d'arrêter l'injuste stigmatisation dont les Haïtiens ont été victimes. Mon second exemple concerne des résultats récents qu'il a obtenus sur le traitement des personnes infectées dans les pays en développement. Les antiviraux utilisés chez nous dans le traitement du sida datent de 1996. Ils n'ont été financés dans les pays en développement que 6 ans plus tard, en 2002. Actuellement, en Afrique subsaharienne, seulement environ 40% des personnes qui ont besoin d'antirétroviraux en reçoivent. Moins de la moitié des femmes enceintes infectées sont traitées. Ainsi, alors que dans nos pays, le sida peut désormais être soigné efficacement, notre monde accepte que la majorité des femmes enceintes ne soient pas traitées, que donc elles meurent et que donc leurs enfants soient orphelins. Comment les générations futures jugeront-elles cela ? Jean Pape a montré que le nombre de morts était divisé par 4 lorsqu'on commençait à traiter les patients dès que leur nombre de CD4 par millilitre de sang était inférieur à 350 et non à 200 comme jusque-là. Ce nombre de CD4, qui sont des cellules du système immunitaire, malheureusement également cibles privilégiées du virus, mesure en effet l'avancée de la maladie. Les nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé précisent que le futur accès universel au traitement, dont le principe fut déclaré par l'ONU en 2006, se fera selon les critères dont Jean Pape a montré l'efficacité. Au total, nous avons donc non seulement la chance d'honorer aujourd'hui un très grand scientifique de la recherche sur le sida, le seul haïtien membre de l'Institute of Medicine de l'Académie des sciences américaines, mais aussi un homme qui, en consacrant sa vie à des progrès de santé publique majeurs, a fait de son pays un exemple pour d'autres.
Moi, je suis revenu en Haïti en 1980 pour m'intéresser aux diarrhées de l'enfant, parce que c'était la cause première de mortalité chez les enfants des pays en voie de développement, y compris Haïti. Alors, comme on était vu un peu comme des experts en diarrhée, j'ai été appelé pour voir des adultes qui souffraient également d'une diarrhée chronique. Il s'est trouvé que c'était les premiers cas de sida. Parallèlement, il y avait d'autres chercheurs haïtiens qui s'occupaient particulièrement de maladies de la peau. Ils s'étaient tous réunis et c'est ainsi qu'on a formé le GISCIO. Le GISCIO, c'est le premier groupe mondial focalisé essentiellement sur le VIH-SIDA. En tout et pour tout, il y avait 49 cas au total sur un an. Et on ne pouvait pas s'imaginer que cette petite maladie, entre guillemets, tout à fait nouvelle à Haïti, allait se développer en cette pandémie qu'on connaît actuellement. On a graduellement développé un modèle de prévention et de soins, et c'est ce modèle que le ministère de la Santé nous a demandé d'étendre à travers Haïti. On a 28 centres, la prévalence a chuté de 2/3. On vient de terminer une étude, il y a quelques mois, qui consistait à comparer quand est-ce qu'il fallait débuter la trithérapie. Est-ce qu'il fallait utiliser les critères occidentaux ou alors les critères de l'OMS. Et cette étude a montré très clairement que si on commence tôt avec les critères occidentaux, il y a 4 fois moins de mortalité et 2 fois moins de tuberculose. Donc je crois que cette étude va transformer considérablement l'orientation de l'OMS et porter les gens à traiter plus tôt. Le prix Christophe Mérieux va beaucoup apporter à mon pays d'abord, à notre groupe de travail. Ensuite, ça va énormément nous aider vers les nouvelles orientations que nous allons prendre, particulièrement sur les études qu'on va mener sur la tuberculose multirésistante, qui sera un problème assez sérieux, et également le virus du papillome humain. Voilà 2 nouvelles orientations que nous allons avoir, en plus du VIH, qui évidemment demeure un point central de nos recherches. Bon, je suis très reconnaissant à la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux pour m'avoir accordé ce prix et l'avoir accordé au Centre GISCIO. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les travaux que nous menons, mais ça va également rayonner sur mon pays, Haïti, qui, comme vous savez, a subi le séisme du 12 janvier. Et ça va permettre aussi à de jeunes chercheurs d'être davantage stimulés, et particulièrement les jeunes chercheurs qui sont avec nous, qui verront qui a la possibilité d'aller de l'avant au niveau de la recherche.
«
découvrons le lauréat du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. Je donne la parole à M. Jean Salençon de l'Académie des sciences pour présenter les travaux de M. Franck Dimroth.
Franck Dimroth, âgé de 39 ans, apparaît comme l'un des tout meilleurs spécialistes mondiaux dans le domaine de la conversion directe de l'énergie solaire en énergie électrique par le procédé photovoltaïque. Après un parcours universitaire essentiellement effectué à l'Université de Zurich, une thèse préparée à l'Institut Fraunhofer pour l'énergie solaire de Freiburg en Allemagne, thèse présentée à l'Université de Constance, puis un stage postdoctoral à l'Université d'Utah à Salt Lake City, Franck Dimroth est entré dans ce même Institut Fraunhofer de Freiburg dans le groupe de recherche Épitaxie et cellules solaires, dont il est maintenant le directeur. Franck Dimroth a non seulement apporté des contributions exceptionnelles et inégalées à la science fondamentale dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, mais il a également mené à bien la réalisation pratique des systèmes énergétiques correspondants. Avec son groupe, il s'est particulièrement consacré à l'étude des cellules multicouches de semi-conducteurs avec l'objectif constant d'en améliorer le rendement. Il a ainsi atteint en 2009 la valeur record de 41,1%. Ceci au moyen d'une cellule triple dont les trois composants couvrent de façon optimale la totalité du spectre solaire terrestre et en utilisant la concentration du rayonnement solaire. J'explique. Au moyen de lentilles de Fresnel, la concentration du rayonnement solaire aboutissait dans ce cas à un facteur multiplicatif de 454. Ce résultat est caractéristique de la démarche de recherche de Franck Dimroth, démarche qui s'appuie sur les analyses fondamentales les plus fines au niveau de la physique des cellules multicouches pour y atteindre le meilleur rendement, et démarche qui s'attache ensuite, par la réalisation pratique de la concentration de l'énergie solaire, à réduire la taille des cellules dans le but d'aboutir à la conversion photovoltaïque au moindre coût. Franck Dimroth est ainsi l'auteur à la fois de 120 publications scientifiques, le titulaire de 9 brevets sur les cellules photovoltaïques et les concentrateurs, et aussi le cofondateur de la société Concentric Solar, qui, avec 60 employés, produit et commercialise le concentrateur d'énergie solaire Flatcon, je décode Flatcon, Fresnel, LENS, All Glass, Tandem, Cell Concentrator. L'acronyme exprime bien la particularité physique rendue possible par l'utilisation des lentilles de Fresnel. On se doit d'ajouter au mérite de Franck Dimroth celui de savoir, au milieu de cet extraordinaire foisonnement d'activités créatrices, se consacrer aussi à la formation de jeunes chercheurs en dirigeant mémoires et thèses de doctorat et en donnant des cours dans des universités. Le Grand Prix scientifique Louis D distingue cette année un jeune chercheur européen dont les travaux sont appelés à avoir des retombées majeures dans les prochaines décennies pour la fourniture d'énergie à la population mondiale. Franck Dimroth.
Merci, chers confrères. Rendons-nous au Fraunhofer Institut for Solar Energy System à Fribourg, où travaille M. Franck Dimroth.
Die Sonne liefert uns jede Stunde etwa so viel Energie, wie die gesamte Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht. Das ist also eine Energiequelle, die erneuerbar ist und die uns in einem fast unbegrenzten Maße zur Verfügung steht. Deswegen habe ich mich schon sehr früh auch als Schüler mit der Frage beschäftigt, wie können wir langfristig Energie aus erneuerbaren Energien erzeugen, die uns jeden Tag und in einer großen Menge zur Verfügung stehen. Wir stehen hier vor dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, dem größten Forschungsinstitut für Solarenergieforschung in Europa. Wir entwickeln hier nicht nur Solarzellen für die Photovoltaik, sondern auch Gebäude, die effizienter mit der Energie umgehen, wie wir die Sonnenlicht, die Sonnenenergie nutzen können in Gebäuden, um Wärme auch zu erzeugen, um Licht in die Gebäude zu bringen. Wir verwenden eine konzentrierende Optik, die sehr günstig sein kann, um das Licht zunächst auf einen kleinen Punkt zu konzentrieren und dann dort mit einer sehr hohen Effizienz in elektrische Energie umzuwandeln. Und wir nutzen hier ein Konzept, das wir Mehrfachsolarzellen nennen. Wir stapeln 3 Solarzellenmaterialien übereinander, die unterschiedliche Bereiche des Sonnenlichts besonders effizient in elektrischen Strom umwandeln können. Vor einem Jahr haben wir es nun geschafft, mit unserer Technologie tatsächlich eine Solarzelle zu erzeugen, die eine höhere Effizienz besitzt als alle Energiekonversionsmethoden von Sonnenlicht in elektrischen Strom je zuvor. Sie hat einen Wirkungsgrad von 41,1% unter konzentriertem Sonnenlicht bei 400-facher Konzentration des Sonnenlichts. Und um dies zu tun, haben wir auch schon bereits 2005 eine Firma gegründet, die Firma Concentrix hier in Freiburg, die diese Technologie, die wir Flatcon nennen, kommerzialisiert und die solare Kraftwerke in südlichen Ländern wie in Spanien oder Süditalien oder auch im Süden von Frankreich aufbauen wird. Wir wollen durch noch mehr Solarzellen, die wir übereinander stapeln können, zum einen den Wirkungsgrad noch weiter erhöhen, aber wir arbeiten auch ganz intensiv mit unseren Industriepartnern daran, wie können wir diese Solarzellen und unsere Technologie noch günstiger machen, um letztlich die Stromgestrehungskosten weiter zu senken. Den Preis und das Preisgeld, über das wir uns natürlich wahnsinnig freuen, werden wir genau für diesen Weg einsetzen. Wir werden uns damit beschäftigen, ganz neue Verfahren zu verwenden. Und das Stichwort hier heißt heute Wafer Bonding, mit dem wir Materialien miteinander verbinden können, die wir heute noch nicht miteinander verbinden können. Zum Beispiel können wir eine Silizium-Solarzelle nehmen, die heute der Standard ist, und können sie verbinden mit so einer hocheffizienten Gallium-Arsenid-basierenden Solarzelle. Und so werden wir in Zukunft, denke ich, irgendwann Wirkungsgrade erreichen können, die im Bereich von 45% oder 50% liegen. Je voudrais bien dire merci, merci beaucoup à la Fondation, l'UID, à la Jury. Il est vraiment un très grand honneur pour moi, mais aussi pour mon groupe et l'entier Institut Fraunhofer ISE en Fribourg. Merci à mon famille qui m'a protégé toujours pour mon complète vie et il est rien sans vous.
Prix culturel Louis D. Voici maintenant le lauréat du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D. Je donne la parole à Mélène Carrière-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pour présenter l'organisation Bibliothèque sans frontières.
L'attribution du Grand Prix Louis D pour la culture, que nous décernons pour la 5e fois, revêt cette année une dimension particulière. Le jury a choisi Bibliothèque sans frontières pour son programme d'aide à la reconstruction et à l'enrichissement des bibliothèques d'Haïti. En aidant aujourd'hui Bibliothèque sans frontières, l'Institut de France et la Fondation Louis D saluent l'effort mené par cette organisation créée en 2006 par Patrick Veil pour permettre l'accès au savoir partout dans le monde grâce à la création de bibliothèques, à la formation d'équipes bénévoles ou professionnelles au métier du livre, et au développement des technologies numériques. Le prix couronne un projet ambitieux, promesse d'avenir et message d'espérance adressé à un peuple qui a subi il y a quelques mois à peine une des pires épreuves de son histoire, le séisme qui a frappé Haïti et tout particulièrement sa capitale Port-au-Prince. De cette effroyable catastrophe, le bilan matériel et humain est connu. Plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés, des centaines de milliers de sinistrés, plus d'un million et demi de personnes abritées dans des camps de réfugiés, les infrastructures nécessaires à tous les domaines de la vie sociale anéanties, la capitale détruite à plus de 80%. Le programme d'action conçu par Bibliothèque sans frontières s'inscrit dans l'effort considérable de la communauté internationale pour soulager cette détresse. Mais il vise avant tout à aider à la reconstruction d'Haïti à travers la culture et l'éducation. Le peuple de Haïti est aujourd'hui menacé d'une perte de mémoire collective, en particulier si les jeunes générations ne peuvent accéder au patrimoine culturel et littéraire que leur ont légué leurs ancêtres. Écoutons Dany Laferrière. Je le cite, « C'est la culture qui nous sauvera. Ce tremblement de terre est un événement tragique, mais la culture est ce qui structure ce pays. Lorsque les repères physiques tombent, il reste les repères humains. » Fin de citation. Pour que le peuple haïtien ne se trouve pas coupé de ses racines, la Fondation Louis D a souhaité donner à Bibliothèques sans frontières des moyens d'action à la mesure de l'enjeu. L'organisation, déjà présente sur le terrain depuis 2007, a une parfaite connaissance des réalités locales. Elle avait en effet mis en place, en coopération avec l'ambassade de France et une mission de l'ONU, un programme visant à la création de près de 200 bibliothèques pour l'ensemble du pays et d'une grande bibliothèque municipale à Port-au-Prince. Elle a donc été, dès janvier dernier, une des premières ONG à mettre en œuvre un plan de sauvetage des archives et des collections patrimoniales. Et elle est aujourd'hui capable d'inscrire les mesures d'urgence dans un programme d'action à moyen et à long terme. Celui-ci vise à combattre l'analphabétisme, qui touche 30% de la population, et l'illettrisme, en reconstruisant notamment les établissements de lecture publique, scolaire et universitaire, détruits, car seule une action durable, appuyée sur le relais d'équipes locales, formées et accompagnées dans leur effort, peut être couronnée de succès. Ce projet doit atteindre 200 000 personnes réparties sur l'ensemble du territoire, avec un effort particulier pour la capitale, où vivaient, avant le séisme, près de 3 millions d'habitants, soit le tiers de la population, et qui abrite les grandes institutions culturelles du pays, dont aucune n'a été épargnée. Les responsables de Bibliothèques sans frontières ont défini trois axes prioritaires pour mieux répondre à l'urgence. D'abord, l'éducation dans les camps de réfugiés. Des activités culturelles y seront proposées pour soutenir les populations et offrir aux enfants des formations leur permettant de reprendre leur scolarité. 80% des écoles publiques et plus de 90% de très nombreuses écoles privées ont été en effet détruites dans la région de Port-au-Prince. Des animations, des ateliers de lecture, la création de 2 bibliothèques mobiles de rue et de 6 bibliothèques abritées dans des containers accompagneront le processus de sédentarisation des camps. Le personnel nécessaire à la mise en œuvre de ces différentes activités suivra dans le même temps une formation. Un service de bibliobus sera bientôt proposé. Le fonds des bibliothèques mobiles sera constitué d'ouvrages provenant des réserves de Bibliothèques sans frontières et d'ouvrages achetés en France et dans les Caraïbes. Cette collection de 3000 titres sera progressivement enrichie et renouvelée. La constitution d'un réseau de bibliothèques dans tout le pays et un programme de lutte contre l'illettrisme viendront compléter ce premier projet. Dans la capitale, l'offre de lecture publique a en effet été particulièrement réduite. Et en dehors de la capitale, les bibliothèques existantes doivent faire face à un afflux massif de nouveaux lecteurs qui ont fui la région de Port-au-Prince. Pour relever ce défi, il faut mobiliser des moyens considérables. Bibliothèques sans frontières met à la disposition de tous les acteurs francophones une plateforme logistique pour coordonner l'ensemble des expéditions, assurer la collecte, le transport et le don de dizaines de milliers de livres et organiser des sessions de formation à l'animation et à la gestion des collections et des fonds. Par ailleurs, 8 bibliothèques rurales de proximité seront créées et l'ouverture d'une grande bibliothèque municipale à Port-au-Prince couronnera l'édifice. Le troisième point du programme ouvre une autre perspective. Il s'agit en effet de doter les élites de demain des moyens de connaissance et d'actions liées au développement des nouvelles technologies. À l'Université d'État de Port-au-Prince seront créés 2 campus numériques comportant chacun 50 postes informatiques destinés aux 30 000 étudiants. Ces 2 sites proposeront l'accès à l'Internet à haut débit et permettront la consultation gratuite de revues et de périodiques. Des cours seront dispensés sur l'Internet grâce à un partenariat avec plusieurs universités francophones. Le premier centre devrait ouvrir avant l'été, le second sera mise en service pour la rentrée universitaire. L'ouverture d'une bibliothèque universitaire centrale constituera le point d'orgue de ce projet, qui va de pair avec la création de la grande bibliothèque municipale ouverte à tous. Le plan de reconstruction de la capitale, qui entrera en application dans les mois à venir, devrait ainsi donner à Haïti la bibliothèque universitaire d'excellence dont tout le pays a tellement besoin. Des sessions de formation seront proposées aux quelques 70 bibliothécaires de l'Université d'État, comme aux agents des bibliothèques des 8 universités privées, que compte la capitale. 10 d'entre eux viendront en France compléter leur formation durant 6 mois, l'Institut français de Port-au-Prince, les 6 alliances françaises dotées de médiathèques situées dans les villes principales du pays, seront associées à ce projet. C'est à la mise en œuvre de ces différents programmes que la Fondation Louis D a décidé d'apporter son soutien. Dès la création du prix qu'il a voulu, le chancelier Pierre Messmer, qui en a inspiré les ambitions, avait précisé que le choix du jury devait reposer sur l'excellence du projet présenté et sur son apport à la diffusion de la langue et de la culture française. De ce double point de vue, le choix de Bibliothèques sans frontières paraît pleinement justifié, il paraît correspondre aux souhaits exprimés par Pierre Messmer. Aux réponses apportées dans le domaine du développement éducatif et culturel s'ajoute en effet une conscience aiguë des défis que doit relever la francophonie en Haïti où la pression de l'espagnol et de l'anglais se fait sentir chaque jour davantage. Nous espérons que cette langue française, dont nous avons le trésor en partage, pourra durablement préserver la culture de Haïti des effets de la mondialisation. Puisse le vaste élan de générosité qui soulève depuis quelques mois tant de bonne volonté au service d'une si noble cause, aider par-dessus tout les hommes de Haïti à demeurer eux-mêmes.
Merci, Madame la Secrétaire perpétuelle. Je vous propose de découvrir en images l'important projet de bibliothèque sans frontières de Haïti.
Le programme de Haïti que nous avons développé en Haïti à partir de 2009 est devenu le premier programme de notre organisation avant que le séisme intervienne. Mais quand le séisme est intervenu, ce sont les Haïtiens, les responsables des bibliothèques haïtiennes qui ont fait appel à nous dès le lendemain du séisme. Nous avons envoyé une équipe de 4 personnes avec 200 kilos de matériel, des bâches, des pelles, des gants, pour permettre de sortir les livres des gravats, de les mettre dans des caisses, de protéger les bâtiments dont les toits s'étaient effondrés pour les protéger de la pluie qui allait arriver. C'était la première chose à faire.
Après le 12 janvier, il y a eu une migration très sensible de la capitale vers les villes de province. Ce qui fait que les structures qui sont intactes après le 12 janvier ne peuvent plus répondre à la demande. Et avec le soutien de Bibliothèques sans frontières, nous allons pouvoir agrandir d'une part ces structures, augmenter les fonds documentaires qui sont là, les fonds documentaires en français, et aussi avoir des bibliothèques provisoires pour faire de l'animation culturelle, augmenter l'offre de lecture publique dans ces zones-là.
Après, il y a tous ceux qui sont dans des camps. Il faut enseigner dans les camps. On enseigne avec quoi? Bien sûr, il faut trouver des professeurs. La France va envoyer des professeurs. Mais les professeurs, il faut qu'ils aient des livres, il faut qu'ils puissent faire des animations, etc. Donc ça, on va s'occuper de permettre de fournir ces instruments. Et puis, le troisième élément qui nous paraît très urgent, c'est que 11 des 12 bibliothèques universitaires se sont effondrées. Donc l'idée, c'est d'avoir de reconstruire non pas 12 bibliothèques, mais une grande bibliothèque. Et puis pendant qu'un bâtiment se reconstruit, on va préparer à Paris la bibliothèque qu'on pourra transférer quand le bâtiment sera construit. On fera venir les bibliothécaires, on va leur faire une formation dans une université parisienne. Et pendant ce temps-là, ils constitueront le catalogue grâce à une coopération que nous allons développer avec l'École normale supérieure et probablement avec la Bibliothèque nationale de France.
Le métissage qu'offre cette langue française avec ce que nous sommes d'Africains, d'Indiens, Taïnos et de tout, est une merveille qui fait notre fierté et qui enrichit notre culture. Les Haïtiens disent toujours aux Français, vous ne nous avez pas fait cadeau du français, c'est notre butin de guerre.
Je voudrais vraiment, sincèrement, très sincèrement remercier Mme Carré-Mancos et l'ensemble du comité du prix Louis D, qui a bien voulu nous choisir, nous sélectionner pour ce prix. Et je pense qu'ils pourront être fiers de ce choix dans quelques années.
J'invite M. Patrick Veil, président Sans Frontières, à monter à la tribune. Ce sera le prix Le Foulon de la Langue. Revenons maintenant aux sciences pour découvrir le lauréat du prix de la Fondation Le Foulon de la Langue. Je donne la parole à M. Alain Carpentier, vice-président de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de M. Miguel Heisseger.
Monsieur le chancelier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, le fruit de la générosité de Monsieur et Madame Le Foulon a établi un grand prix, le grand prix Le Foulon de la Lande, Institut de France, que le jury a attribué cette année à Monsieur Michel Heisseger, professeur à l'Université de Bordeaux, pour ses travaux sur les troubles du rythme cardiaque. Après les gestes du cœur, nous allons nous intéresser aux gestes sur le cœur. Les troubles du rythme cardiaque sont fréquents et généralement bénins. Mais certains sont graves et peuvent conduire, j'ose à peine dire le mot, à la mort subite. Je vous concède que dans une telle circonstance, une telle expression a quelques connotations négatives. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que grâce à Michel et Saguerre, cette nouvelle est beaucoup plus optimiste que nous le pensons. Alors, voici comment les choses se sont passées. Vous savez que les contractions du cœur sont essentiellement dues à des courants électriques qui naissent dans des cellules spécialisées du cœur et qui se propagent des oreillettes de la base du cœur vers le ventricule. Ces ondes de dépolarisation, comme tout système électrique, vous savez tous ce qu'est un électrocardiogramme, comme tout système électrique, peuvent présenter des anomalies, des courts-circuits qui sont responsables de ces troubles du rythme dont je parlais. Et au lieu de se contracter normalement, régulièrement, de façon harmonieuse, ces fibres cardiaques se contractent de façon désordonnée et conduisent à des contractions anarchiques. Ce sont les troubles du rythme et plus précisément ce qu'on appelle les fibrillations auriculaires. Alors, la fibrillation auriculaire, c'est une espèce d'anarchie cardiaque. Les conséquences sont dramatiques, je l'ai dit, et c'est à ce sujet que s'est intéressé très tôt dans sa carrière Michel Essager. Dans les années 90, il rejoint un groupe de cardiologues et sous l'égide de son maître, Jean-François Varin, il se passionne pour ces troubles du rythme, pour ce défi. Alors, il avait remarqué que c'était assez simple parce que, on pouvait enregistrer ces troubles du rythme. Et alors que ses collègues ne faisaient que les enregistrer et les constater, lui, il a décidé d'essayer de les comprendre. Et pour cela, il passait des heures et des heures à enregistrer ces troubles du rythme avec des électrodes placées dans les ventricules. Vous savez aussi que le cœur présente deux types de cavités cardiaques, les oreillettes et les ventricules. À ces deux types de cavités cardiaques correspondent deux types de troubles du rythme, deux types de fibrillations. Commençons par les fibrillations auriculaires, les fibrillations de l'oreillette. Ces fibrillations de l'oreillette sont très fréquentes, 350 000 malades par an, et elles donnent lieu à des formations de caillots qui peuvent migrer dans le cerveau et ainsi entraîner des paralysies. Alors, on connaissait bien ces troubles du rythme, on connaissait bien ces fibrillations auriculaires, et comme chirurgien, je les redoutais, mais on pensait tous que c'était une maladie de l'oreillette. Et lui, passant des heures et des heures à observer le phénomène, et en particulier les premiers millisecondes d'apparition du phénomène, il finit par découvrir dans un endroit tout à fait insoupçonné, qui n'était pas les oreillettes, l'endroit où naissaient ces troubles du rythme et ces fibrations. Et de façon inattendue, tellement inattendue d'ailleurs que personne ne l'a cru au début, de façon inattendue, ce n'est pas au niveau des oreillettes qu'il a trouvé les troubles du rythme, mais c'est au niveau des veines pulmonaires qui s'abouchent dans l'oreillette. Alors ça vous paraît peut-être un peu banal, mais c'était tout à fait extraordinaire, tellement extraordinaire que, comme je viens de le dire, personne ne l'a cru, et parmi bien des éminences de la spécialité. Mais à partir du moment où il a trouvé ces cellules anormales au niveau des veines pulmonaires, la conclusion qu'il en a tirée, c'est que si c'est véritablement l'origine du trouble, si je détruis ces cellules, je vais corriger le trouble. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui fait qu'il s'agit d'une grande invention, puisque c'est la possibilité, pour la première fois, de prévenir ces complications. Après avoir découvert ça, il s'est penché maintenant sur le ventricule. Le ventricule présente aussi des troubles du rythme. Ces troubles du rythme, je l'ai dit, provoquent, eux, au niveau du ventricule, la mort subite. Et il a trouvé, au niveau du ventricule, la même chose qu'au niveau des oreillettes, c'est-à-dire un tout petit foyer ou des tout petits foyers de cellules hyper-excitables qu'il a pu détruire par des courants électriques. Alors, vous voyez, c'est une histoire très émouvante. D'ailleurs, vous voyez bien que je suis ému. Et c'est une histoire très émouvante. Et le jury qui est ici, et je salue la présence de Mona Nemer et puis de Michel Bertrand et des autres membres du jury, pour dire que nous avons voulu distinguer non seulement une découverte, non seulement une invention thérapeutique, mais surtout, ce qui est à nos yeux encore plus important, les qualités scientifiques de curiosité, d'intelligence, mais surtout de persévérance qui font d'un chercheur un trouveur. Michel Asseger.
Merci, Monsieur le Président. C'est au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux que nous nous rendons maintenant dans le département de Monsieur Michel Asseger.
J'ai décidé de commencer médecine avec l'arrière-pensée d'être psychiatre. Et au cours de mon internat, j'ai fait un stage donc en cardiologie. Et là, j'ai découvert les troubles de rythme cardiaque, la spécialité qu'on appelle l'électrophysiologie ou la rythmologie cardiaque. Et j'ai été véritablement fasciné parce qu'on pouvait, par des simples signaux enregistrés sur le thorax, deviner des mécanismes très complexes à l'intérieur du cœur. En 1994, nous avons décidé de cartographier les fibrillations cardiaques. Et pendant 4 ans, nous avons cartographié les premières millisecondes de la fibrillation et nous avons eu la surprise et d'effectuer la découverte que ces sources des fibrillations de l'oreillette étaient non pas dans le cœur, mais à distance du cœur, dans les veines pulmonaires. Conceptuellement, c'était une innovation. Nous avons pu aussi démontrer la preuve du concept en appliquant une énergie radiofréquence sur ces sources. On éliminait ces cellules sources et ça permettait de faire disparaître les fibrillations de l'oreillette. Nous enregistrons les signaux à l'intérieur du cœur par ces petits cathéters qui sont introduits ici au pli de l'aine. Nous mettons 3 cathéters, elles ont plusieurs bipôles et nous avons ainsi une dizaine de signaux que l'on peut enregistrer simultanément dans les cavités cardiaques. Là, vous pouvez voir ici le déplacement d'un cathéter. Chez ce patient, l'anomalie responsable se situe tout à fait en bas du cœur, à 6 heures sur l'écran, et c'est à cet endroit-là que nous allons délivrer un courant qui va permettre de le guérir, ce qu'on appelle ablation par radiofréquence. Les projets que nous souhaitons développer dans les années à venir sont les fibrillations du ventricule et l'insuffisance cardiaque. La fibrillation ventriculaire est l'affection dont l'expression est la plus foudroyante, puisque fibrillation ventriculaire équivaut en quelques secondes à la mort subite du patient. Et nous avons pu découvrir en 2004 que cette fibrillation ventriculaire était liée à des cellules hyperexcitables dans un tissu dit de Purkinje. Nous pensons qu'on pourrait développer des médicaments qui seraient ciblés sur ce tissu particulier et qui pourraient permettre de traiter un bien plus grand nombre de patients. Le prix Le Foulon de la Lande servira à financer notre laboratoire d'expérimentation électrophysiologique, de cartographie optique ou de modélisation cardiaque. En particulier, nous souhaitons créer un institut de rythmologie et de modélisation cardiaque qui porterait le nom de LIRIC, puisque nous visons à rétablir l'harmonie électrique. Je remercie du fond du cœur la Fondation Le Foulon de la Lande et l'Institut de France pour le grand honneur qu'ils nous font en nous accordant ce prix. Et toute mon équipe s'associe à ces remerciements.
J'invite Monsieur Michel Heisseger à monter à la tribune. Nous passons maintenant au prix scientifique énergie. Ce sont maintenant deux lauréats que nous découvrons pour le prix scientifique de la Fondation Énergie. Je donne la parole donc à M. Ivagide de l'Académie des sciences pour présenter les travaux de M. José Esteban et de M. Bruno Dubois.
Merci. Depuis plus de 10 ans, sous l'égide de l'Institut de France, la Fondation Énergie aide la recherche, en particulier dans le domaine des maladies du système nerveux. Le prix Énergie Institut de France a été attribué depuis, je crois, 9 ans, à des thèmes les plus variés de cette discipline des neurosciences. Je ne ferai que citer l'épidémiologie, la dépression, l'épilepsie, les troubles des organes d'essence, les cellules souches, etc., c'est-à-dire des domaines qui vont de la clinique jusqu'à la recherche la plus fondamentale. Et cette année, le thème choisi a été la maladie d'Alzheimer, personne ne s'en étonnera. Le prix a été attribué à deux candidats que le jury n'a pas souhaité départager, d'abord parce que ce sont des candidats exceptionnels, aussi peut-être parce qu'il y en a un qui est plus clinicien et l'autre plus fondamentaliste. Je permettrai de commencer par le docteur José Esteban, qui est d'origine espagnole. José Esteban est neurobiologiste. Il est actuellement professeur associé dans le centre de biologie moléculaire Severo Ochoa à Madrid. Il dirige une équipe dont l'objectif, trouver des cibles thérapeutiques nouvelles pour cette terrible maladie, en particulier pour lutter contre le processus pathologique lui-même à l'échelle cellulaire, qui est à l'origine des déficiences nerveuses qui causent les troubles intellectuels de cette affection. Plus précisément, son idée est de favoriser la repousse des neurones, ceux qui sont en déficience en raison de la maladie dont ils sont affectés, et en particulier à l'extrémité de ces neurones, au niveau de ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire ce petit point de contact entre les neurones qui permet la transmission nerveuse au sein de nos cerveaux. Alors, pour cela, il utilise plusieurs modèles. L'un est un modèle de souris transgénique, dans lequel on a introduit la mutation qui est responsable de certaines formes de cette affreuse maladie. L'autre, tout simplement, et c'est une nécessité, c'est de travailler sur le système nerveux proprement dit de malades qui sont décédés de cette maladie. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela ? Eh bien, il cherche à identifier les voies biochimiques qui conduisent à la souffrance puis à la mort de ces cellules. En particulier, il a identifié une voie de signalisation, je ne rentrerai pas dans les détails, qui est une voie qui s'appelle PIP3, qui semble jouer un rôle absolument capital dans la mort cellulaire de la maladie d'Alzheimer, dont vous savez qu'il existe du reste plusieurs types. Et l'idée, bien entendu, c'est de trouver une cible pharmacologique très précise pour essayer de réparer et de renforcer ces neurones déficients. Et maintenant, j'espère ne pas faire de bêtises, Monsieur le Président, c'est le docteur Esteban en image.
Durante mi carrera investigadora, he estado principalmente interesado en los mecanismos de la memoria. Mi entrenamiento, mi educación se originó, fue aquí en la Universidad Autónoma en Madrid. El motivo, el interés fundamental de estas investigaciones es entender cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos que operan en el cerebro durante el aprendizaje y la memoria. Y un aspecto fundamental que hemos averiguado años recientes es que las neuronas son capaces de modificar sus conexiones sinápticas durante la memoria. Y esto es particularmente relevante para problemas de salud, para enfermedades cognitivas como la enfermedad de Alzheimer, porque estos procesos que conocemos como plasticidad, esta plasticidad sináptica, es defectuosa en estas enfermedades. Ahora vamos a entrar en el laboratorio donde realizamos la parte del trabajo de biología molecular. Aquí donde se realizan los experimentos de bioquímica y de biología molecular con los que estudiamos los procesos que ocurren en las neuronas. En esta otra parte del laboratorio es donde realizamos los experimentos de electrofisiología. Este proyecto financiado por el Instituto de Francia y la Fundación NRJ va a ser fundamental para estos estudios. Vamos a emprender unos aspectos más ambiciosos de este trabajo que nos permitirán combinar estudios con muestras humanas, muestras post-mortem de pacientes que tuvieron Alzheimer, combinarlo con estudios con modelos de animales transgénicos y también con estudios celulares que nos permitan diseccionar qué rutas de señalización están alteradas y cómo podemos manipularlas en nuestra ventaja para intentar paliar estos defectos cognitivos en enfermos como los de la enfermedad de Alzheimer. Quisiera agradecer de forma entusiasta la ayuda del Instituto de Francia, Institut de France, a la Fundación NRJ, perdón por el francés, porque realmente son fundamentales para que podamos llevar a cabo estos estudios. Es muy importante para todo el grupo, no solo para mí, sino para todo el grupo de investigación, que se puedan llevar a cabo estos estudios.
Et maintenant, j'ai le plaisir et aussi, je dois dire, quelques scrupules à introduire le deuxième prix attribué au docteur Bruno Dubois, tout simplement parce que Bruno Dubois a travaillé avec moi pratiquement pendant toute sa carrière. Vous comprenez comme c'est gênant et émouvant. Le docteur Bruno Dubois est donc docteur en sciences, il a fait sa thèse dans mon laboratoire. Il est professeur de neurologie à l'hôpital La Salpêtrière, où il dirige une équipe INSERM sur les maladies du cerveau à l'origine de troubles cognitifs. En fait, il a consacré l'essentiel de sa carrière à l'étude des troubles de mémoire et de la planification intellectuelle, si caractéristiques chez l'homme, et dont on sait qu'ils sont déficients dans les démences dégénératives, quoi qu'elles intéressent le cortex cérébral, c'est essentiellement le cas de la maladie d'Alzheimer, soit qu'elles intéressent des régions plus profondes du cerveau, comme dans certaines maladies rares, je pense à certains syndromes parkinsoniens particulièrement sévères, par exemple. Avec une équipe particulièrement performante, ses travaux sont actuellement consacrés à la maladie d'Alzheimer, avec en particulier, il en est réellement l'auteur principal, la volonté d'identifier la maladie à un stade précoce de l'évolution. Pour cela, Bruno Dubois a mis en place un magnifique centre d'Alzheimer à La Salpêtrière, où son équipe a fait déjà des avancées très importantes. D'abord, en essayant d'identifier les patients très précocement par la simple clinique, par l'observation, mais surtout en s'aidant de dosages que nous pouvons faire dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien, et surtout en imagerie cérébrale par IRM, dont Bruno Dubois est un des excellents spécialistes. Ensuite, il a essayé, et il a déjà réussi, à mettre en place divers moyens thérapeutiques pour essayer d'enrayer le cours évolutif de cette terrible maladie. Il est bien évident que ces deux aspects sont conjoints, puisque l'idée est d'essayer d'arrêter l'évolution de la maladie à un stade précoce, donc de déceler le plus précocement possible l'éclosion de cette maladie chez les patients. Donc, je suis très heureux d'être là pour présenter ce prix. Et je crois, Monsieur le Président, que nous allons voir Bruno Dubois en image.
Je suis chercheur, mais je suis aussi clinicien. Mon domaine, c'est donc la recherche clinique, c'est-à-dire essayer par différentes approches de mieux comprendre les mécanismes et les troubles que l'on observe dans certaines maladies, je dirais ce qu'on peut appeler des maladies nouvelles.
Nous sommes ici à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, l'IM2A, ce futur bâtiment où on va regrouper l'ensemble de la recherche clinique sur la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés.
Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé sur le système cholinergique qui est détruit dans le cerveau des patients qui ont une démence. Alors, c'est intéressant parce qu'on a pu mieux préciser les relations entre ce déficit biochimique cérébral et les troubles de mémoire. Nous avons ensuite étudié les rapports entre mémoire et atrophie de l'hippocampe dans la maladie d'Alzheimer. Nous avons caractérisé le syndrome amnésique hippocampique et à partir de là, nous avons proposé un schéma conceptuel de la maladie d'Alzheimer à l'origine de nouveaux critères. Ce prix va nous permettre de continuer dans nos travaux de recherche sur les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, le tout dans une perspective de diagnostic plus précoce et plus spécifique, mais aussi dans une perspective thérapeutique. Je voudrais bien sûr remercier la Fondation Énergie qui a sélectionné un projet de recherche clinique. C'est important car la recherche clinique mérite d'être soutenue. C'est la recherche que l'on fait autour du patient. Mais je voudrais surtout aussi remercier tous ces collaborateurs grâce auxquels rien n'aurait pu être fait. Je pense bien sûr à Merle Ruberg, à Bernard Pilon, à Richard Lévy, à Stéphane Le Rissi et à bien d'autres. Et je voudrais enfin remercier tout particulièrement Yves Agide qui m'a accompagné tout au long de ces recherches. Je remercie à Yves Agide.
J'invite M. José Esteban et M. Bruno Dubois à monter à la tribune. Le prix scientifique Del Duca. Nous allons maintenant découvrir le lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca. Je donne la parole à notre confrère, M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de M. Patrick Aubourg.
Patrick Aubourg est professeur à l'Université Paris-Descartes. Il y a effectué depuis plus de 20 ans, avec une continuité exceptionnelle, des recherches cliniques, génétiques et thérapeutiques à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, avec le soutien très précieux de l'INSERM. L'essentiel de son œuvre concerne une maladie neurodégénérative, l'adréno-leucodystrophie, qui est due à la disparition progressive de la myéline des neurones. La myéline est le manchon qui entoure l'axe des neurones. Cette maladie peut avoir plusieurs présentations cliniques. La forme la plus grave, particulièrement dramatique, est la forme cérébrale infantile qui touche les enfants de 4 à 8 ans. Elle se manifeste progressivement par des signes déficitaires, une réduction de la vision, une diminution des fonctions cognitives et motrices conduisant en quelques années à une infirmité majeure. Le traitement était jusque-là essentiellement symptomatique. À l'exception près néanmoins, d'une contribution très importante réalisée par Patrick Aubourg en collaboration avec Claude Grisselli, qui consista à proposer à ces malades une greffe de moelle allogénique, c'est-à-dire l'injection d'une moelle osseuse prélevée chez un donneur sain. L'adrénoleucodystrophie est une maladie génétique récessive qui touche un enfant sur 17 000 naissances. Le gène est porté par le chromosome X, ce qui explique que l'affection ne touche que les garçons. C'est Patrick Aubourg, en collaboration avec notre confrère Jean-Louis Mandel, qui fut le premier, en 1993, à identifier le gène dont la mutation est à l'origine de la maladie. Cette identification, qui était à l'époque une prouesse remarquable, conduisit à éclairer les mécanismes de la maladie et à ouvrir la voie du diagnostic prénatal. Surtout, elle incita Patrick Aubourg à se lancer dans un projet extrêmement ambitieux de thérapie génique visant à arrêter le processus pathologique en lui apportant une solution radicale, la thérapie génique. Le projet était d'autant plus ambitieux que cette thérapie génique était à ses tout débuts de développement chez l'homme, avec en particulier les travaux de notre confrère Alain Fischer et de sa collaboratrice Marina Cavazzana, avec lesquels d'ailleurs Patrick Aubourg a étroitement collaboré. Le traitement consiste à prélever des cellules souches de la moelle osseuse chez le patient et à les traiter in vitro de façon à introduire un gène fonctionnel normal grâce à un vecteur viral VIH atténué, inactivé et modifié. Ensuite, les cellules ainsi traitées, je pourrais dire ainsi corrigées, sont injectées par voie intraveineuse après un conditionnement chimique. Certaines de ces cellules gagnent spontanément le cerveau où elles exercent leur effet correcteur. Le traitement fut un succès remarquable. Non seulement il n'y eut pas d'effet indésirable, en particulier l'insertion du gène transféré dans les chromosomes, mais les résultats cliniques furent exceptionnels avec un arrêt de la progression de la maladie et une régression de symptômes cliniques chez les deux malades traités. La publication de ces résultats dans la prestigieuse revue Science en 2009, restera à l'évidence un des éléments frappants de l'histoire de la thérapie génique chez l'homme. La subvention du prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca est essentiellement attribuée pour aider, pour soutenir les recherches du lauréat. Patrick Aubourg a proposé un projet de recherche consistant à étendre, améliorer, diversifier la stratégie qu'il avait développée dans l'adrénoleucodystrophie pour d'autres pathologies majeures du cerveau, en particulier la maladie d'Alzheimer, dont il vient d'être question, et l'ataxie de Friedreich. Dans la maladie d'Alzheimer, l'objectif est de corriger les anomalies du cholestérol intracérébral qui sont observées chez ces malades. Il sera donc nécessaire, dans le cas particulier, pour suivre la stratégie choisie, d'introduire le gène d'une enzyme, dans le cas particulier la cholestérol 24-hydroxylase, qui va contribuer de façon importante à réduire les concentrations de cholestérol dans le cerveau, ce qui n'est pas possible d'obtenir par les hypocholestérolémions habituels, les statines, qui n'agissent pas dans le cerveau. Dans l'ataxie de Friedreich, qui est une maladie qui se manifeste par de graves trous de l'équilibre et de la coordination des mouvements volontaires, il s'agira de remplacer le gène muté, qui est le gène de la frataxine, par un gène fonctionnel normal, comme dans l'esprit de ce qui vient d'être précisé. La frataxine est une protéine qui est essentielle au fonctionnement du cervelet et qui est déficient chez ces malades. Cette frataxine conditionne le fonctionnement plus particulièrement d'organites intracellulaires, les mitochondries. L'ensemble de ces travaux déjà réalisés et qui vont être développés par Patrick Aubourg vont à l'évidence concourir de façon majeure à permettre le développement de cette stratégie révolutionnaire que représente la thérapie génique chez l'homme, plus particulièrement dans les maladies cérébrales où malheureusement il n'existe aujourd'hui aucun traitement dans la plupart des cas.
Merci, chers confrères. Transportons-nous un moment à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris pour y rencontrer M. Patrick Aubourg.
Ce laboratoire INSERM, qui est localisé à la faculté de pharmacie Paris-Descartes, s'occupe plus précisément de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques basées sur ce qu'on appelle les approches de thérapie génique pour traiter des maladies dégénératives du cerveau, de l'enfant et de l'adulte. Je voudrais d'abord remercier mon collègue et ami Pierre Bounière, avec qui je travaille à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul depuis plus de 20 ans. Le docteur Nathalie Cartier, qui est véritablement sur le plan scientifique, mais également médical, la cheville ouvrière de tous ces projets, mais également nos collègues de l'hôpital Necker, et en particulier les professeurs Alain Fischer, Marina Cavazzana et Salima Assembe, qui ont joué également un rôle crucial pour la réalisation et le succès de cet essai de thérapie génique dans l'adrénoleucodystrophie. En fait, avant d'arriver aux résultats que l'on a pu publier en novembre dernier 2009, ça a été un long travail. Un long travail qui a commencé en 1993 avec la venue du docteur Nathalie Cartier dans mon équipe, à utiliser un premier vecteur médicament pour démontrer que c'était faisable. Et puis, il a fallu attendre 1999 pour que l'on ait à notre disposition un nouvel outil, un nouveau vecteur médicament, un vecteur lentiviral dérivé du virus VIH lui-même, qui est seul capable potentiellement de pouvoir mettre un gène thérapeutique dans des cellules qui ne se divisent pas ou peu. Et à partir de c'était 1999 jusqu'en 2005, il y a eu tout un travail à la fois de laboratoire et de développement qui a aussi nécessité beaucoup de partenaires. Je prends cette opportunité pour remercier la Fondation Del Duca, car ce VALA va nous permettre en effet de développer deux projets, et plus particulièrement un projet qui nous tient à cœur, qui est de développer une approche de thérapie génique pour une maladie fréquente, qui est la maladie d'Alzheimer. Et pour le projet Ataxie de Friedreich, c'est la même démarche, c'est qu'il y a une démarche préclinique, et c'est là encore une étape indispensable avant d'aller à l'essai clinique, tant pour démontrer l'efficacité de l'approche que l'absence d'effets secondaires, d'effets toxiques.
J'invite M. Patrick Aubourg à monter à la tribune. Découvrons enfin le lauréat du prix mondial de la Fondation Simo Sinodeldica. Madame Carnoco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, président du jury du prix mondial de la Fondation Del Duca, va présenter M. Patrick Modiano.
Le prix mondial de la Fondation Simone et Cino Del Duca a toujours récompensé de grandes figures de la littérature. Dans le passé, Anouilh, Senghor, Borges, Junger, Cadaré, et plus récemment Simon Leys, Mario Vargas Llosa et Milan Kundera. Cette année, le jury, avec beaucoup de fierté et de bonheur, a distingué Patrick Modiano. Notre lauréat, qui est né en 1945, ce qui est un point important, est l'un des auteurs majeurs de notre époque, écrivain du souvenir et romancier d'une société disparue, toujours à la recherche de l'existence et de l'histoire des êtres. Ses quelque 36 livres, dont 16 romans, sont le lieu d'une résurgence de la vie passée, et en particulier des réalités de la France de l'occupation, celle du marché noir, de la collaboration, de la RAF, de la déportation des Juifs, sur le mode d'une quête dans la mémoire individuelle qui n'est pas toujours personnelle, car comme le dit un des narrateurs de livrets de famille, je cite, « Ma mémoire précédait ma naissance. J'étais sûre, par exemple, d'avoir vécu dans le Paris de l'occupation, puisque je me souvenais de certains personnages infimes et troublants, de ceux qu'aucun livre d'histoire ne mentionne. » Fin de citation. L'œuvre de Patrick Modiano fait ainsi de l'histoire avec un grand H, le fond d'histoires individuelles ignorées, qu'il s'agit de ressusciter à partir de quelques faits particuliers, restés dans une mémoire intime et familiale. Rappelons que celui que nous fêtons aujourd'hui sous la coupole de l'Institut au 23 quai de Conti a lui-même passé une partie de son enfance et de son adolescence dans l'immeuble du 15 quai de Conti. Ce détail anecdotique est symbolique, car il nous montre combien la carrière de Patrick Modiano s'inscrit dans la géographie parisienne, du quai et du quartier Saint-Germain, dans une sorte de perpétuel retour sur les mêmes lieux, les mêmes éléments d'une histoire plus ou moins personnelle, mais avec ce léger décalage qui est au cœur même de son écriture. De la place de l'Étoile, son premier roman paru en 1968, au boulevard de Ceinture en 1972, Dora Bruder en 1997, de rue des boutiques obscures à quartier perdu, d'une jeunesse à vestiaire de l'enfance, du plus lointain de l'oubli, dans le café de la jeunesse perdue et même l'horizon qui vient de paraître, chacun de ses livres nous plonge dans un même univers et dans une même quête d'identité, s'écartant de la prose célinienne des premières œuvres, Villa Triste, paru en 1975, invente le style qui sera désormais la manière Modiano. Une écriture marquée par la réserve et la parcimonie qui permet de créer une atmosphère bien particulière, quoique évanescente, immédiatement reconnaissable à l'évanescence même des figures qui la peuplent. Mais cet univers romanesque ne se répète pas exactement d'un ouvrage à l'autre. Il est comme un unique jeu de cartes déployé en éventail où chaque livre est légèrement décalé par rapport aux autres. Les déplacements sont constants et les combinaisons graduées entre fiction, histoire et autobiographie. Voyage de noces et Dora Bruder traitent la même histoire, celle d'une jeune fille qui fugue en 1941, mais le premier appartient à la fiction, quand le second relève de l'enquête historique. La recherche d'une figure disparue ne prend d'ailleurs pas toujours la forme de l'investigation. Elle n'est pas non plus systématiquement au cœur d'un véritable roman de la mémoire, qui, comme Villa Triste ou Une jeunesse, s'élargirait à une sorte de recherche du temps perdu. La fiction, qui rejoint presque l'autobiographie dans un pédigré, s'en écarte davantage dans Livret de famille, qui entremêle événements vécus et récits imaginaires, la transpose en partie au féminin dans La petite bijou, ou s'en inspire plus ou moins, comme dans Quartier perdu ou Accident nocturne, pour composer un roman à la première personne. Pour ce qui est des lieux, si on arpente Paris dans bien des ouvrages, on part de la même façon à Annecy dans Villa Triste, à Nice dans Dimanche d'août, avant de finir à Berlin dans l'horizon. Enfin, en résonance avec les romans et les recueils de récits, c'est toute une palette d'autres genres qu'explore l'auteur. L'écriture du chef-d'œuvre qu'est le scénario de La Combe Lucien n'a évidemment rien d'étranger à l'œuvre romanesque, mais la remarque vaut tout autant pour l'interrogatoire qui recueille les souvenirs d'Emmanuel Berle, pour les textes qui accompagnent les photographies de Brassailles sous le titre de Paris Tendresse, et même pour un album de jeunesse comme Catherine Certitude, histoire d'une danseuse installée à New York qui se souvient de son enfance à Paris, entre une mère elle-même danseuse et un père qui trempe dans des affaires un peu obscures. Ces divers déplacements qui permettent de tisser une œuvre tout en effet d'écho se retrouvent au cœur de chaque livre. Patrick Modiano peuple ses romans de personnages qui n'obéissent pas exactement à la norme, étant à la fois ordinaire et un peu en marge. Autour du père plongé dans les trafics de marché noir, de la mère actrice de second ordre, gravite tout un monde interlope dont le point commun est l'équivoque. L'effet de décalage tient aussi au report dans un monde passé et disparu, qui n'est pas restitué selon un principe documentaire. Le roman recrée l'atmosphère et l'épaisseur selon le principe d'incertitude, des souvenirs flous et des photos tremblées. Pour établir la vraisemblance de ce monde qui n'est pas purement imaginaire, Patrick Modiano l'ancre dans la réalité topographique la plus précise, en multipliant les noms de rues, de lieux, les adresses, etc. L'œuvre se fait guide de la géographie parisienne, à ceci près qu'elle guide dans des lieux qui ne sont plus, et que c'est une géographie littéraire qui élude la description objective. La déambulation décalée dans le temps de Patrick Modiano s'apparente à cet égard à la dérive de Guy Debord. Elle prend la forme d'un guide psychogéographique, d'une évocation dont la dimension affective prend le pas sur la référence historique, et ceci jusque dans le choix de Berlin, ville de reconstruction, qui a l'âge du narrateur dans l'horizon. Le résultat, c'est un univers proche de celui de Brassailles, un univers en noir et blanc, qui produit par essence une indéfinissable nostalgie. Le mémorial que constitue l'œuvre de Patrick Modiano est riche de souvenirs en idéal, mais c'est un souvenir dont les bribes toujours s'échappent au lieu de se fixer. Pour le placer par conséquent sous la figure de Pénélope, on citera Apollinaire, et l'on tissait dans sa mémoire une tapisserie sans fin qui figurait son histoire. L'image qui conviendrait à l'œuvre de Patrick Modiano est toutefois moins celle d'une tapisserie au petit point que celle d'un dessin piqué, dont les détails concrets constituent les piqûres espacées, la mémoire étant alors la faculté d'imagination qui fait ressurgir ces signes et les donne à interpréter comme figure d'un univers à reconstituer. L'épaisseur de la mémoire correspond à l'épaisseur du mystère où l'homme est plongé. Car comme chez Nerval, la réminiscence faisant surgir du moment présent les moments passés les confond dans une surimpression indécise. En attribuant le prix mondial Simone et Cino Dal Duca à Patrick Modiano, le jury a voulu saluer la création de cet univers où l'homme cherche inlassablement à ressaisir son identité. Et c'est cette exceptionnelle réussite littéraire que le jury a reconnue.
Merci, Madame la Secrétaire perpétuelle. Je vous propose de partir à la rencontre de Patrick Modiano en images.
Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, 11 allée Marguerite, d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. À Paris, elle habite une chambre, 15 quai de Conti. Le 2 août 1945, mon père vient à vélo déclarer ma naissance à la mairie de Boulogne-Billancourt. J'imagine son retour par les rues désertes d'Auteuil et les quais silencieux de cet été-là.
Paris, évidemment, ce sont des souvenirs d'enfance ou d'adolescence très précis, de rues comme ça, et qui m'ont impressionné, évidemment. Et à force, évidemment, ce Paris est devenu presque intérieur, en fait. Donc, bien sûr, les images sont datées de cette époque, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'est libéré de son époque parce que je l'ai intériorisé.
Il entama un air qui était, je crois, sur les quais du vieux Paris. Elle m'a dit encore une fois qu'il y avait une grande terrasse et une vue sur tout Paris. Je suis heureux quand je marche seul dans les rues de Paris. Je ferme les yeux et je l'imagine, remontant le boulevard Saint-Michel. J'attache sans doute une trop grande importance à la topographie.
Il y a aussi tout un phénomène d'annuaire, parce qu'il y a un pouvoir de suggestion, évidemment, très fort sur des noms qui disparaissent.
L'automne, à Paris. Je continue d'écrire mon roman le soir, dans une chambre des grands blocs d'immeubles du boulevard Kellermann, et dans les deux cafés, au bout de la rue de l'Amiral Mouchez.
J'ai toujours eu peur que le romancier pèse trop sur ses personnages, soit un peu comme Dieu le Père, ou qu'il les tire comme des marionnettes, et je pensais toujours que c'était compliqué. Il fallait donner, tout au moins au lecteur, l'impression que les personnages peuvent s'échapper du cadre même du livre, en fait. On a l'impression qu'au fond, c'est le lecteur qui va, un peu comme un procédé photographique, qui va révéler le livre. Comme avant, on développait une photo, elle venait petit à petit au jour.
le 2 mai 1962. Mon cher Patrick, nous devons tout nous dire, avec la plus grande franchise. Tu m'expliques d'une part que tu as compris que les diplômes sont nécessaires pour avoir une situation, et d'autre part que tu as besoin de t'exprimer en écrivant des livres ou des pièces de théâtre, et que tu voudrais te consacrer entièrement à cela.
Ça m'émeut beaucoup que vous m'ayez choisi, parce que c'est un peu comme quand j'ai commencé à écrire, c'est toujours un peu féerique comme ça, comme de s'être introduit comme ça en compagnie de gens qu'on admire évidemment, et qui ont eu ce prix, Lès ou Borges, ou vraiment, je suis vraiment très touché.
J'invite M. Patrick Modiano à monter à la tribune. Avant de vous inviter à vous rendre à salle Comtesse de Caen, dans le pavillon occidental de ce palais, et de lever la séance, je souhaite, au nom de l'Institut de France et des membres des 5 académies qui la composent, adresser nos sincères félicitations aux lauréats pour les travaux exceptionnels qu'ils réalisent dans tous les domaines des sciences, des lettres, des arts, de l'enseignement et de l'action humanitaire. J'aimerais aussi exprimer notre gratitude à tous nos mécènes qui œuvrent à la reconnaissance que méritent tant de talents. La séance est levée.
À l'issue de cette cérémonie solennelle, et pour compléter votre information, vous pouvez aussi écouter sur Canal Académie l'interview du chancelier de l'Institut, M. Gabriel de Breuil, qui expose le nouveau visage du mécénat contemporain, et l'interview de deux des lauréats, celle en français du docteur Jean-William Papp et celle en anglais du professeur Michel Aïssaguer. Il suffit de taper sur le moteur de recherche de la page d'accueil de Canal Académie, Grand Prix.
Par Canal Académie.